Pneumonie, bronchite, otite, méningite, infection urinaire, septicémie. Les antibiotiques, c'est magique. Ils sauvent incontestablement des millions de vies. Seulement voilà, ils sont de moins en moins efficaces. Et il faudrait en consommer moins. Vendre des antibiotiques à l'unité, c'est une bonne idée.
C'est déjà une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça permet d'éviter du gaspillage. Quand on a une prescription d'antibiotiques par un médecin, on sait qu'on doit prendre tant de comprimés par jour pendant tant de jours. Et si l'emballage est plus grand, qu'est-ce qu'on en fait? Parfois, on le jette à la poubelle, ce qui est une mauvaise idée parce que ça peut se retrouver dans l'environnement et poser des problèmes. Ou alors, ce qui est encore pire, c'est qu'un jour, on se dit, tiens, j'ai quelque chose qui ne va pas bien, je vais reprendre 2-3 comprimés qui étaient là, peut-être ça me fera du bien. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus problématique encore. Donc, c'est une première étape, mais une seule.
Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui pointe du doigt aujourd'hui un problème de santé publique. Microsciences, un podcast de la RTS.
En Suisse, on consomme environ 3,3 millions de boîtes d'antibiotiques par an, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour vous et pour moi. Donc on consomme à peu près la même chose par habitant que nos voisins allemands. Par contre, on en consomme deux fois moins que nos voisins français et italiens. Alors, c'est probablement plus juste d'en consommer moins, ça ne veut pas dire qu'on fait tout juste encore pour l'instant.
C'est Jacques Schrenzel qui fait ce constat. Nous consommons encore trop d'antibiotiques et il s'agit d'un problème mondial. Jacques Schrenzel est médecin, infectiologue et microbiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est président de la Société suisse de microbiologie. Mais avant de sauver la planète du fléau de l'antibiorésistance, si on prenait un moment pour comprendre comment ça marche, un antibiotique?
Ça sert à tuer des bactéries qui nous causent un vrai problème de santé et qu'on ne peut pas éliminer autrement. Comment ça marche? On va utiliser des propriétés qui se trouvent que chez les bactéries de façon à pouvoir leur taper dessus spécifiquement. Si on fait une comparaison par exemple avec des plantes, si on allait taper contre la chlorophylle qui fait la couleur verte des plantes, ça ne nous affecterait pas directement. Donc on trouve des équivalents chez les bactéries qui ne sont présentes que chez les bactéries sur lesquelles on va pouvoir taper pour avoir le moins d'effets secondaires sur notre organisme.
Taper sur des bactéries, c'est utile quand on est malade. Enfin, quand on a une infection bactérienne. Ça paraît logique, non? Pourtant, toutes les infections bactériennes ne nécessitent pas des antibiotiques.
D'abord, il faut être sûr qu'on ait une infection bactérienne. C'est pas parce qu'on a de la fièvre, qu'on a mal ou qu'on a des symptômes qu'on a forcément une infection causée par une bactérie. Et certaines infections bactériennes ne bénéficient pas d'un traitement antibiotique. Par exemple, si on a un abcès sur la peau qui est causé par une bactérie généralement qui s'appelle le staphylocoque doré, on peut inciser l'abcès, donc faire couler le pus, et l'organisme est suffisamment solide pour pouvoir s'en défendre tout seul. De même, il y a quelques années, on pensait qu'on devait traiter des sinusites bactériennes avec des antibiotiques. On s'est aperçu que beaucoup de sinusites ne sont pas causées par des bactéries, et même si elles sont causées par des bactéries, le fait d'utiliser des antibiotiques n'amène pas d'amélioration chez le patient.
Oui, les antibiotiques sont une arme de choix, mais que dans certains cas. Notre histoire avec les antibiotiques de masse est récente. Ce n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont été utilisés à large échelle. Un nom qui revient souvent, c'est celui de Fleming, qui a découvert la pénicilline en 1928. La pénicilline, c'est un antibiotique. Et Fleming, Alexander Fleming, l'a découverte de manière fortuite.
En fait, Fleming était revenu d'un week-end, il avait laissé ses plaques de pétri ouvertes et puis au lieu de les refermer, il s'était aperçu qu'il y avait une sorte de champignon qui avait poussé à l'endroit et au lieu de dire zut, jeter ses plaques et recommencer, il a observé qu'autour de ce champignon, les bactéries qu'il étudiait, des staphylocoques à l'époque, ne poussaient pas. Et intelligemment, il s'est dit tiens, c'est comme s'il y avait quelque chose qui diffusait de ces champignons et qui avait une certaine efficacité.
Un peu de chenille dans un labo et hop, un prix Nobel de médecine en 1945 avec Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain. En 80 ans, si le principe de taper sur les bactéries est resté le même, on a trouvé plein de moyens différents de le faire.
Alors depuis cette découverte extraordinaire, il y a beaucoup de familles d'antibiotiques qui ont été découvertes, il y a beaucoup de dérivations de ces antibiotiques, des couleurs différentes, si vous voulez, d'un antibiotique qui permettent d'avoir des propriétés particulières chez certains patients, chez certaines autres bactéries. On a mieux compris les mécanismes, on a compris comment fonctionnait un antibiotique par rapport à un autre. Et puis on a beaucoup appris également en termes de diagnostic, on sait mieux diagnostiquer une infection par une bactérie, on sait mieux prédire si la bactérie va être tuée ou pas par un antibiotique, on peut mesurer chez un patient les taux d'antibiotiques qu'on lui donne dans le sang, si on veut être très précis. Donc on a massivement amélioré nos connaissances d'une part, nos outils diagnostiques, nos outils de traitement et de suivi d'autre part.
Et on a défini différentes classes d'antibiotiques qui vont agir différemment sur les bactéries, car il y a des tas de bactéries différentes. Le but est donc de cibler la bonne bactérie, celle qui nous rend malade. Mais ce n'est pas toujours possible. Et parfois, il faut taper large.
Alors les antibiotiques à large spectre, c'est des antibiotiques qui vont avoir une efficacité contre une très très grande variété de bactéries différentes. On les aime beaucoup en médecine d'urgence. Quand un patient arrive à l'hôpital et est très malade, on suppose par exemple qu'il a une infection des poumons ou bien une infection intra-abdominale. On n'a pas encore le temps de savoir de quoi il s'agit, mais il est vraiment critique. On ne peut pas se permettre d'attendre. On traite avec un antibiotique à large spectre. De cette façon, on a toutes les chances que là où les bactéries qui sont présentes seront efficacement traitées avec ça. Par contre, au moment où on a fait le diagnostic, où on sait que c'était effectivement une pneumonie et qu'elle était causée par tel et tel germe, on va déterminer les sensibilités de ce germe aux antibiotiques et on va utiliser un antibiotique qu'on appelle ciblé, c'est-à-dire qui va agir idéalement que contre la bactérie qui cause le problème.
Tout ceci est quand même fantastique. Mais, vous vous en doutez bien, c'est là que commence la série des mets.
Mais on a quand même un vrai souci, c'est que malgré ceci, on a beaucoup utilisé les antibiotiques, probablement trop, et on le paye maintenant au prix fort avec une augmentation massive de la résistance aux antibiotiques.
Et déjà, il faut savoir que les antibiotiques peuvent être toxiques pour nous.
Toutes les molécules peuvent avoir une certaine toxicité. C'est clair qu'on a choisi des antibiotiques qui sont le plus sélectif possible contre des bactéries. Par exemple, on va agir contre la paroi des bactéries. C'est une sorte d'exosquelette qui les entoure et que nos cellules n'ont pas du tout. Donc l'antibiotique le plus connu qui s'apparente à ça, c'est la pénicilline ou les céphalosporines qui sont généralement bien tolérées. Mais on peut faire des réactions allergiques à ces substances. D'autres familles d'antibiotiques vont cibler d'autres mécanismes bactériens mais qui sont un tout petit peu plus proches des nôtres. Par exemple, certaines molécules peuvent bloquer les usines qui fabriquent des protéines chez les bactéries. Mais comme nos usines à nous sont un tout petit peu différentes, on peut avoir des effets secondaires qui sont dus au fait que ça fait quand même des petits effets marginaux et on a une tolérance qui est moins bonne. Donc on doit se dire que tout antibiotique peut potentiellement avoir des effets secondaires et on doit donc bien les choisir quand est-ce qu'on les utilise et pourquoi.
Et puis, les antibiotiques à large spectre sont largement trop utilisés.
Il faut bien se rendre compte que quand on traite un patient qui a une infection sévère et que le patient va mieux, on n'a pas toujours le réflexe de dire « je vais changer d'antibiotique ». Le réflexe, a priori, c'est de se dire « monsieur ou madame va mieux, je suis très content, je ne change pas une équipe qui gagne, je continue le traitement ». Non, il faut déjà faire l'effort de se dire « j'ai utilisé un antibiotique à large spectre, je vais devoir maintenant cibler le traitement ». Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne à nos étudiants et que les collègues font de manière systématique.
Mais c'est récent. Et plus on utilise les antibiotiques, plus les bactéries résistent.
Chaque fois qu'on utilise un antibiotique, même s'il est relativement ciblé, il va faire ce qu'on appelle une pression de sélection. Ça veut dire que toutes les bactéries de notre organisme, si elles sont un petit peu susceptibles à cet antibiotique, elles vont mourir. Et les autres, les bactéries qui survivent, vont avoir un avantage, vont se développer. Et c'est comme ça que, à force d'utiliser des antibiotiques, on a accéléré un phénomène qui fait partie de la vie, qui est la diversité des bactéries, mais qui va finalement permettre aux bactéries résistantes d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de nourriture, de se multiplier, de se transmettre d'un patient à l'autre, et finalement de coloniser une bonne partie de la surface du globe et de poser le problème de santé publique que l'on connaît aujourd'hui.
Eh oui, c'est un problème qui colonise le globe. Et la planète est en fait assez petite.
Notre gros problème de résistance aux antibiotiques, c'est la transmission de bactéries qui sont déjà résistantes. Et puis, on peut très bien aller en voyage et ramener dans nos souvenirs de voyage, dans nos intestins, sans qu'on s'en rende compte, des bactéries résistantes. Par contre, si on va prendre des antibiotiques, on va probablement les favoriser et elles vont être présentes plus longtemps chez nous. Donc c'est là où il faut savoir qu'on est confronté à ça, nous tous, même si on est en bonne santé, qu'il faut bien choisir quand on doit ou pas être traité par les antibiotiques.
Mais au fond, comment font-elles ces bactéries pour être si douées dans la résistance? Elles sont minuscules et nous, on a toutes nos armes chimiques.
Les mécanismes sont vraiment multiples. On sait que les éléments les plus dangereux pour sélectionner des souches résistantes, c'est d'utiliser un antibiotique avec un dosage inférieur. Donc, plutôt que de tuer, défier un petit peu la bactérie, mais lui laisser la capacité d'y répondre, et de faire des traitements de durée insuffisante.
Et, surprise, nous sommes des animaux. Et ce qui se passe dans l'agriculture nous impacte aussi.
En fait, les antibiotiques sont utilisés dans beaucoup d'endroits. On les utilise dans l'agriculture, on les utilise dans l'élevage. Il est clair que quand on a un animal qui est malade, on va le soigner et on doit le faire de manière discernée et adéquate. Ce qu'on a clairement appris depuis quelques années, c'est qu'on ne doit pas utiliser les antibiotiques pour pouvoir favoriser la croissance des animaux. Ça a été interdit, ça ne se fait plus en Suisse depuis de nombreuses années, et nos collègues vétérinaires ont massivement diminué l'utilisation d'antibiotiques. Mais ça nous montre aussi qu'on fait partie de la même planète. Si on utilise des antibiotiques chez des animaux, on va retrouver ces antibiotiques dans le sol à cause des déjections des animaux. Ces antibiotiques vont s'écouler dans les eaux de ruissellement, dans les rivières, peuvent se retrouver indirectement dans l'eau potable ou sur nos légumes qu'on va devoir laver, etc. Donc on s'aperçoit qu'on fait partie d'une communauté. Il faut faire très très attention que chacun des éléments soit contrôlé le mieux possible. Et puis d'autre part, il va y avoir des antibiotiques qui peuvent se retrouver dans les eaux à des petites concentrations, justement ce qu'on n'aime pas. Ça va chatouiller les bactéries qui vont être motivées à se défendre, voire même endommager certaines bactéries et donner de la place à celles qui y résistent. Donc on n'aime pas du tout ça.
Vous cernez le problème? Eh bien, Fleming l'avait prédit.
Fleming avait mentionné dès le départ qu'il allait probablement avoir des souches résistantes. Il ne s'est pas trompé. Ça a été démontré très très rapidement après l'utilisation des antibiotiques. C'était quelque chose qui a été conçu, mentionné comme risque et prouvé après.
Ce qu'il n'avait en revanche pas anticipé, c'est que le phénomène irait aussi vite.
Nous n'avons fait qu'accélérer un processus. Les bactéries résistantes existent dans la nature depuis longtemps. Il y a un très joli papier qui a été fait avec des chercheurs qui ont exploré une grotte qui n'avait pas été violée par aucun humain depuis des milliers d'années, donc bien avant que les antibiotiques ne soient utilisés. Ils ont analysé le sol, ils ont analysé différentes sources, et à l'intérieur de ces sources-là, il y avait déjà des bactéries résistantes aux antibiotiques. On peut se demander pourquoi. Parce que les antibiotiques, c'est pas nous qui les avons inventés. Si on revient à l'expérience de Fleming a vu qu'il y avait une substance qui venait d'un champignon. Les champignons produisent des antibiotiques ou des substances antibactériennes pour se faire un petit peu de place, pour pousser sans être trop gênés. Et les bactéries se défendent là contre pour pouvoir trouver de la nourriture à des endroits où d'autres ne sont pas capables de le faire. Donc tout ce jeu-là existe depuis des millénaires et on n'a fait qu'accélérer l'horloge en utilisant des antibiotiques synthétiques et en les utilisant à très large échelle.
Un jeu qui existe depuis des millénaires. Et moi, j'existe depuis quelques décennies. Et cette histoire de résistance aux antibiotiques était déjà un problème dans mon enfance. Alors si on se doutait du problème dès sa découverte, à qui la faute ?
C'est difficile, hein, la responsabilité. Imaginons-nous quand on a 42 fièvres, on frissonne, on va voir le médecin, et le médecin vous dit, mais écoutez, cher monsieur, chère madame, c'est probablement une infection virale, ne prenez pas d'antibiotiques. On devrait respecter ça. Parfois, dans certaines cultures, on a l'impression que si c'est grave, c'est dû à une bactérie. Il y a une sorte de pression à utiliser des antibiotiques. Et puis, ce qui s'est passé d'autre part, c'est qu'on vit une mondialisation. Il y a énormément d'échanges. On va souvent à l'étranger, des personnes voyagent. Il y a énormément de brassage de population et de micro-organismes qui sont ramenés. Donc, on facilite la possibilité à ces micro-organismes résistants de se transmettre et d'aller dans de nouveaux endroits qui vont coloniser, ainsi de suite.
Depuis le temps qu'on étudie ces résistances, a-t-on au moins identifié la bactérie championne toute catégorie de la résistance ? C'est qui ? Au moins, on saurait d'où vient le danger.
Il faut bien se rendre compte que pour les bactéries, le fait d'avoir des gènes de résistance, c'est pas vraiment un choix. Enfin, on pense maintenant que les bactéries gardent des gènes de résistance, la capacité de résister, lorsqu'elles sont soumises à certains stress dans leur environnement. L'exemple parfait, c'est des bactéries qui se trouvent dans l'environnement, dans l'eau. Elles sont exposées à des résidus d'antibiotiques, elles sont exposées à des métaux lourds, elles sont exposées à beaucoup de choses. Elles ont un environnement très stressant et ces bactéries-là ont eu tendance pendant des millénaires à accumuler des capacités de se défendre contre les antibiotiques ou d'autres molécules qui les tuent. Par chance pour nous, ces bactéries sont peu virulentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas causer d'infection chez vous, chez moi, si on n'a pas de maladie préexistante ou si on n'a pas de faiblesse particulière. Donc, il faut vraiment chaque fois considérer la virulence de la bactérie, la susceptibilité de la personne et les modalités de traitement. On est toujours obligé de jouer avec ces trois aspects.
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut se méfier des bactéries peu virulentes, mais qui sont résistantes aux antibiotiques.
On a plusieurs mécanismes qui sont intéressants. On a dit qu'on pouvait transférer des bactéries résistantes. On a dit que parfois les bactéries pouvaient développer une résistance, mais la chose la plus incroyable, c'est qu'elles échangent des gènes de résistance. Un auteur disait qu'elles échangent des gènes de résistance un peu comme nous, on échange des emails. Donc la comparaison veut dire beaucoup de choses. Ça permet aux bactéries de transférer un ensemble de capacités qui peuvent leur être utiles à un moment ou à un autre, mais qui donnent une capacité incroyable aux bactéries à évoluer et à survivre dans un environnement. Imaginez dans nos intestins les centaines de milliards de bactéries qui sont présentes. Si une famille de bactéries possède des gènes de résistance sur un petit dispositif qui peut s'envoyer comme un email, on appelle ça des plasmides, eh bien ces plasmides peuvent être intégrés par une autre famille de bactéries. Et le problème va vite s'amplifier. On a des sortes d'incubateurs dans nos intestins qui sont extrêmement importants. Et ça, c'est un des mécanismes extraordinairement puissants qu'ont les bactéries pour pouvoir disséminer la résistance à travers différentes espèces.
Et oui, les bactéries résistantes ont la capacité d'entraîner d'autres bactéries dans leur lutte contre les antibiotiques. Bien, bien. Mais si elles ont la capacité de se passer des mails avec des instructions pour la résistance, elles peuvent les perdre, ces instructions, non ? Moi, je perds beaucoup de mails.
En théorie, oui, mais c'est relativement difficile. Il y a un prix à payer pour la bactérie. Elle va devoir garder ce gène, elle va devoir le reproduire pour la donner à ses cellules filles, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle un certain coût. Donc la nature essaye d'être économe et à long terme, ce coût peut être un petit peu excessif et on peut perdre les capacités de résistance si la bactérie n'est pas exposée pendant longtemps à des antibiotiques. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'essayer de limiter autant que possible l'exposition aux antibiotiques.
Hé ! J'ai une solution. on n'a qu'à arrêter d'utiliser certains antibiotiques. On a vu, hein, on en a plein. Le but serait que toutes les bactéries de la planète redeviennent sensibles à l'antibiotique qu'on arrête d'utiliser. Et voilà, elle est pas belle la vie.
Ah, c'est ça, un appel international. Vous savez que les appels internationaux sont assez difficiles à faire et surtout à être suivis. Ça se fait au niveau local. Ça se fait au niveau local où on mesure les taux de bactéries résistantes chaque année. Par exemple, dans cet hôpital, on le fait également. Et on s'aperçoit que lorsque la résistance de telle et telle bactérie à des molécules particulières augmente, on décide de changer les recommandations de traitement. Donc on va décider, par exemple, de ne plus utiliser tel antibiotique à large spectre en première ligne, mais changer de catégorie. On peut le faire dans un environnement comme un hôpital. On peut le faire de manière un petit peu plus difficile au niveau national ou fédéral. C'est illusoire de le faire au niveau international parce que la situation est très différente. Mais l'idée de faire des changements d'antibiotiques pour diminuer la pression de sélection est tout à fait légitime. Elle se fait et ça permet quelque part de remettre les pendules à l'heure. Ça permet de diminuer l'avantage de ces bactéries résistantes en changeant de molécules et puis quelques années après, modifier à nouveau notre stratégie.
C'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Chaque antibiotique a sa résistance. Alors c'est quoi la solution ? De nouveaux antibiotiques ?
Il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des gendarmes, mais tout change et tout doit se réinventer. Donc le gros enjeu, c'est de garder de l'innovation, de garder de nouvelles molécules pour des souches qui deviennent résistantes. Et c'est là où il y a un gros paradoxe. C'est que quand les pharma viennent avec une nouvelle molécule fantastique qu'on ne connaît pas encore et qui permet de traiter toutes les bactéries, au lieu d'être accueillis par des médecins qui sont enthousiastes en disant « c'est génial, vous nous avez sauvés », ils vont dire « c'est génial, on va garder ça dans notre tiroir pour l'utiliser le jour où on est vraiment embêté ».
Et si on s'arrangeait pour ne pas avoir besoin d'utiliser ces nouveaux antibiotiques, pour éviter d'être embêté ? Oui, je rêve un peu. Mais peut-être que c'est nous qui devrions résister à l'appel des antibiotiques.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne ? Pourquoi je dors ? Pourquoi je rêve ? Qui a inventé la seconde ? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre ? Où va la lumière quand j'éteins ma lampe ? Mon ficus essaie-t-il de me parler ?
Si cet épisode vous inspire, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Play RTS ou Spotify. Si vous avez des questions, des remarques, écrivez-nous à microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Nous, c'est le microcosme de Microscience. Quatre organismes au mode de vie très différent et très complémentaire. Il y a Mathieu Ramsauer, réalisateur, qui a fluidifié cet épisode. Il y a Camille Dupont-Lahit, coproductrice, qui fait germer les meilleures idées. Et enfin, il y a Jérôme Nussbaum, qui donne à ce podcast une enveloppe musicale protectrice. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, qui a troqué les microbes contre un micro. Mais j'ai quand même tendu un piège à Jacques Schrenzel. Prendra-t-il des antibiotiques cet hiver, lui ?
Non, je ne prendrai pas d'antibiotiques. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un bénéfice individuel et collectif. Donc je prends des antibiotiques, je change mon microbiote et je m'expose un petit peu plus à avoir des souches résistantes chez moi qui sont celles qui me causeront une infection après. Donc de manière égoïste, ça vaut la peine de ne pas prendre d'antibiotiques inutilement. De manière altruiste, c'est évident qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques inutilement. Donc je n'en prendrai pas cet hiver et je pense que vous ferez la même chose que moi.